Du 6 au 11 février, c'est la 14e semaine du son. C'est à Digne-les-Bains, mais c'est également partout dans toute la France. Mais à Digne, on est particulièrement intéressé par notre environnement sonore, que ce soit via des créations artistiques, via des conférences ou des élèves. Eh bien, nous allons découvrir tous ensemble quel est notre rapport au son. On retrouve donc la programmation de cette 14e semaine du son à Digne-les-Bains.
C'est-à-dire que cette semaine du son, donc la semaine du son, de par ses dates qui sont donc du 6 au 11 février au cœur de l'hiver, c'est vraiment pour plusieurs structures culturelles de la ville l'occasion de travailler ensemble et en impliquant des associations et surtout les habitants aussi. Donc l'idée là, ça a été pour inviter tous les passants dans la rue à venir participer, à rentrer, pousser la porte du musée et des autres lieux comme la médiathèque ou l'IUT, le théâtre du Rance qui participent à cette semaine. On a disposé des écoutoirs dans les lieux publics du centre-ville avec des créations sonores qui sont parfois issues d'émissions de radio. Alors, j'espère qu'on aura aussi des performances et des interventions impromptues tout au long de cette semaine. Et donc, ces écoutoirs vont diffuser des émissions de radio locales, Zanzine, Fréquence Mistral, donc Louis Fine, Kilowatt FM, aussi La Soupe Primitive qui est diffusée sur plusieurs radios au Grenoble-Montpellier. Il y aura aussi dans ces écoutoirs des créations réalisées par des étudiants de l'école d'art et les lycéens de David Nel, qui ont été accompagnés par l'artiste Lorraine Tortil durant un workshop de plusieurs jours. Et cette artiste présentera aussi un film qu'elle a réalisé, mais alors là, c'est un film qu'elle a pensé en fonction de la bande-son avant tout. Et donc, nous vous invitons à venir voir ce film et entendre aussi donc les étudiants en parler de leur création le vendredi 14h, ainsi que vendredi à 18h. Et on enchaînera à 19h sur une soirée festive qui est l'occasion voilà, de se rencontrer et d'imaginer, j'espère, de nouvelles collaborations entre les uns et les autres. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie aussi, c'est que dans ces écoutoirs, on entendra aussi les petits-enfants du petit jardin et de la crèche qui ont passé tout le semestre à explorer le musée par le son. Et donc, Justine Floquet, qui est volontaire en service civique au musée, a réalisé ses ateliers avec eux et ses petites créations sonores qu'elle vous invite également à découvrir. Et bien sûr, le Théâtre du Rance participe avec nous pour la première fois cette année parce qu'ils avaient programmé un spectacle qui s'appelle Fantôme, un léger roulement sur la peau tendue qui est notre tympan. Et bien sûr, le sujet nous a amené à collaborer sur cette semaine. Voilà, donc on vous attend nombreux sur ces différents temps de rencontres et de découvertes. Et bien sûr, pensez à réserver les moments qui le nécessitent.
Donc, on peut retrouver tout le programme sur le site du musée.
Voilà, www.museegassendi.org.
Trois étudiants à l'IUT de Digne-les-Bains en tourisme et développement durable participent à cette semaine du son. On écoute Théo, Fabien et Audrey.
Les étudiants qui sont là, qui sont présents, vont présenter le travail qu'ils font, qui est une suite d'un sentier de possibilités, si vous voulez, de déambulation dans la ville de Digne pour que les gens s'approprient les sons et qu'ils les comprennent, parce qu'il y a un enjeu politique qui est fondamental dans le rapport au sonore. Parce que le sonore, c'est du collectif. Et donc, il y a ce rapport-là qui est très, très important. Et donc, ils font ce travail-là et ils vont faire une performance, ils vous en parleront mieux, ils vont faire une performance dans la ville de Digne le jeudi, voilà.
Alors, il nous a été demandé par l'Observatoire sonore de travailler sur un projet qui consiste à écouter plusieurs endroits de la ville et d'en tirer des sensations, des émotions, et du coup de pouvoir, par le biais de performances et d'installations sonores, de valoriser ces lieux. Voilà, donc on a fait une cartographie, on a fait créer un site pour pouvoir faire une mise en tourisme de ce projet.
Donc dans l'idée ensuite que ce soit réutilisé
Oui.
Oui.
Oui, oui.
D'accord. Quels sont les lieux que vous avez choisis et comment ?
Alors, nous avons choisi le pied de la prison, qui s'appelle le Central Park. Ici, il y a un panneau. Et également, on a choisi le kiosque, de qui est passé sur la place Gassendi.
Voilà. En fait, on est allé se promener un peu au hasard dans la ville de Digne. On est allé se perdre dans les rues pour voir tous les lieux, en fait. Et ces lieux qu'ils viennent de dire, justement, nous ont interpellés par leur atmosphère sonore, leur... Ils avaient vraiment une dimension particulière qui nous a fait, qui nous a donné envie d'y installer des performances et des installations sonores.
Et vous étiez à la recherche au départ d'une ambiance particulière ?
Et oui, et normalement, on a être dans le lieu et on a faire que écouter, de se plonger dans l'environnement sonore. Et après, on a faire un écoute active. On a noté toutes les particularités de chaque endroit et de ces qualifications qu'on a données à chaque endroit. Et on a choisi les mieux, ces endroits qui ont des particularités au niveau de ce fait sonore. Que ça, on va l'expliquer dans les conférences. Tous ces faits sonores qu'on a ressortis dans le travail. Et des sensations qui on sent dans la ville, c'est faire sortir aux gens de chez elles et de faire découvrir sa propre ville ainsi que les mêmes touristes et faire voir et savoir qu'il y a des choses importantes même si on les prend comme des choses d'habitude. Il y a des choses, oui, des choses quotidiennes d'habitude dans la ville.
Et alors, comment ça va être réutilisé ensuite pour les touristes ou les habitants du territoire ?
Alors, du coup, il s'agit d'une installation de carillon. Donc, c'est une installation qu'on peut peut-être laisser sur la place. Après, on va faire une performance, une diffusion d'enregistrement sonore. Donc, ça sera éphémère. Voilà, après, nous, notre but, c'est d'initier les gens à ce type de cette forme de tourisme et plus tard, peut-être, y installer le même type d'installation pour initier ces gens. Voilà.
Et lors de vos recherches, est-ce que vous en avez profité pour parler avec les habitants, pour savoir si eux, ils entendaient des choses que vous n'entendez pas ou s'ils n'entendaient pas ce que vous entendez ?
Alors oui, on a fait, j'ai fait un entretien directif avec des questions qu'on avait préparées en amont pour avoir le ressenti sur leur environnement sonore, ce qui les dérangeait, ce qu'ils aimaient, plusieurs choses sur leur son au quotidien. Voilà, donc ça s'avère super intéressant et voilà.
Après, c'est du son à un instant donné. Est-ce que ce serait le même environnement sonore à l'époque de Noël ou en plein été ?
Ah, pas du tout, justement, c'est tout, là toute la subtilité de notre projet. Et voilà, donc nous notre écoute, par exemple, elle s'est faite sur plusieurs moments différents, parce que l'environnement sonore, je ne sais pas, peut-être le soir, le matin, ça n'a rien à voir et on le ressent d'une manière différente. Voilà, donc c'est quand même un art, c'est subjectif, on va dire.
Ce qui est normal pour de l'art.
Voilà. En vrai. Alors, nous vous invitons à notre conférence qui aura lieu le jeudi prochain à 18h à l'IUT. Voilà. Nous vous accueillerons les bras ouverts. Oui, bien sûr, après, nous vous invitons à nous suivre pour nos performances au cœur de ville.
La semaine du son est également en partenariat avec le Cairn Centre d'Art, dont le bâtiment est fermé à l'heure actuelle, mais la force vive est toujours là.
Oui, en fait, l'exposition Entendre, voir, écouter Knud Victor, c'est organisé en partenariat entre le Cairn Centre d'Art et le musée Gassendi. Et donc, c'est un événement Cairn Centre d'Art hors les murs qui se passe au musée Gassendi. Et pour cette exposition, on a donc invité le collectif Night Owl, qui est composé par Julie, Michel et Olivier Crabé, qui sont venus en résidence à Digne depuis l'automne dernier et qui, du coup, ont commencé leurs recherches ont continué leur recherche sur Knut Victor et en explorant tous les archives qui sont un des peu au musée. Et du coup, tous les enregistrements sonores, tous les affiches, tous les documents en fait, qui sont restés depuis, qui témoignent de son travail. Et ils ont rencontré aussi tous les gens qui ont travaillé avec lui, notamment dans le Luberon, et aussi le fils et l'équipe du musée qui avaient travaillé avec lui pendant différentes années sur plusieurs expositions et projets. Et dans l'exposition du coup, qu'on retrouve du 6 février au 28 février au musée Gassendi, il y aura une sélection de ces archives qui sont du coup présentées de façon immersive, dans le sens qu'il y aura aussi du son à pouvoir écouter, et dans une exposition qui se partage en deux parties, qui est pensée en deux parties. Une première partie d'archives et la deuxième, du coup, totalement immersive, dédiée au son. Et après, liée à l'exposition, il y aura une série d'événements qui sont, du coup, sur trois soirées, le lundi 6, le mercredi 8 et le samedi 11, dans lesquels il y aura chaque fois deux séances et où ça sera très important de réserver. Mais l'accès est gratuit, même s'il est sous réservation.
Une des salles majeures du musée Gassendi a été transformée temporairement en exposition autour de l'artiste Knut Victor. Une exposition immersive dans une ambiance sonore que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. Et juste après, Julie et Olivier du collectif Night Owl vont donc nous expliquer de quelle façon ils ont conçu cette exposition.
Elle va tenter un truc aussi.
Donc du coup, c'est vraiment une exposition, on va dire la première exposition publique à partir de ces archives qui sont conservées au musée Gassendi depuis sa disparition en 2013. Commencé, Knut Victor du coup s'installe dans le Luberon en 1961, dans les gorges du Régalon. C'est un Danois qui vient au départ, c'est un peu la légende, mais qui vient s'installer pour les peintres au départ, donc il vient s'installer pour des histoires de lumière et de peinture, et finalement ça va être l'environnement sonore qui va le capter et qui va passer sa vie enregistrée. Ça c'est un petit peu, on va dire, c'est pour faire très très vite, mais commençons peut-être...
Alors, vous avez conçu l'exposition de manière à retrouver d'abord l'homme, le personnage, et ensuite son œuvre.
Alors, en fait, il y a quatre vitrines. Donc, cette première qui s'appelle La Montagne Large, qui est, une évocation du Luberon, de l'endroit où il a habité, de la Bastide, qui est sa maison. Il dit très joliment, d'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai laissé les ruines... aller avec le paysage, parce que je trouvais ça beau. Donc là, c'est une évocation de la géographie très proche, enfin, qui l'entourait. Monument, c'est comme ça qu'il nomme le petit duc, qui est un animal qu'il a enregistré, étudié, observé pendant des années. Donc, on va dire que cette vitrine-là, c'est une évocation des sons de la faune qu'il a enregistré, des vies imperceptibles, c'est-à-dire qu'il a enregistré le bruit du ver dans la pomme, le bruit des fourmis, il a enregistré vraiment des sons très ténus, donc c'est une évocation de tout ce travail-là, de son imperceptible.
Cette vitrine sera accompagnée aussi de la diffusion d'un film qu'il a consacré au petit duc, qui s'appelle Le petit duc et ses compagnons, qu'on doit encore installer, mais qui accompagnera.
Qui sera là également.
Parce que voilà, dans l'exposition, c'est à la fois évoquer tout le travail, sonore de Knut Victor, mais c'est aussi tout un travail vidéographique. S'il a laissé de côté la peinture, Il a par contre, avec les outils de la vidéo et tout ça, il a fait un travail finalement assez énorme en fait d'images, d'installation, la plupart du temps pensée sous forme d'installation.
L'idée de l'exposition là, c'est aussi de présenter, on va dire, l'aspect plasticien de la pratique de Knud Victor, qui certes est très connu comme artiste sonore, mais en menant ce travail d'enquête dans les archives, c'était aussi une découverte vraiment de l'aspect plasticien, c'est-à-dire d'installation immersive comme cette installation voile d'araignée et chambre d'image. C'est aussi d'essayer de décliner tous les aspects de son travail, qu'il soit sonore, visuel aussi, et de l'ordre plus de l'installation. Donc c'est aussi des bribes, on va dire, de ces installations qui ne sont pas dans leur échelle habituelle. Tout comme la vidéo qu'on voit au mur là, qui est une des vidéos qui faisait partie de chambre d'image. C'est vraiment donné à sentir, on va dire, toutes les facettes de son travail.
Et donc des points d'écoute un petit peu partout, il y en a là-bas, il y en a là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va pouvoir rentrer dans l'œuvre par les oreilles.
Oui, il va y avoir du coup des sons diffusés de Knud Victor, mais surtout l'idée en fait c'était de légender ces vitrines par la voix directement de Knud Victor, et de rentrer aussi dans toutes ces histoires par le biais de ce qu'il en raconte.
On va dire, je crois que c'est aussi quelqu'un qui est plus dans une tradition orale. Il a très très peu écrit sur son travail. Finalement, par contre, il a consacré pendant toute sa vie énormément d'entretiens radiophoniques ou autres. Mais donc c'est surtout quelqu'un qui raconte son travail plus qu'il ne l'écrit. Et donc voilà, le parti pris, c'est vraiment que ça soit, on va dire, que c'est Knud Victor qui légende en fait toutes ces archives et les vitrines, et donc il y aura moyen d'écouter des petits montages. C'est chaque fois des extraits tirés d'entretiens, soit qu'on a récupéré à l'occasion de ce travail et de cette exposition, ou qu'on a trouvé dans ces archives, dans des cassettes, voilà.
Et donc l'idée, c'est que ce soit immersif. Depuis tout à l'heure, on entend derrière nous des bruits. C'est comme on rentre à l'intérieur de cette pièce, on se retrouve dans l'univers de Knud Victor.
Disons une manière, en tout cas, d'évoquer une partie de son univers. C'est sûr que compte tenu de l'importance de son travail sonore, ça aurait été un peu étrange de rentrer dans une exposition sur Knud Victor où il n'y aurait aucun son.
Que du silence.
Donc là, cette vitrine qu'on a intitulée l'œuvre dans l'œuf, mais en fait en... Alors là, c'était un peu une... Enfin, c'était une des découvertes dans ce travail de recherche sur ces archives, c'est que... Bon, il est connu pour avoir pris du son, mais il est aussi très connu pour avoir bricolé pas mal de ces instruments, aussi bien de captation que de diffusion des sons. Mais bon, il se fait que cet amour et cette passion du bricolage, des technologies, tout ça, ça l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie, et il a suivi des outils informatiques et de ce qu'il permettait. Et donc le dernier, enfin en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui, sans doute un des derniers gros travaux qu'il a entamé, une de ses dernières œuvres qu'il a appelé l'œuvre dans l'œuf, était une... on va dire, c'était un peu un double objectif. C'était à la fois pour lui une manière de catalogue, de numériser et de cataloguer toutes ses archives, l'ensemble de son travail, mais avec aussi l'excitation du côté interactif des outils informatiques, et donc que c'était pas simplement un catalogue, mais il imaginait aussi une manière de voyager dans tout ça qui était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus folle, plus ouverte. Enfin bon, voilà, on sentait qu'il était très travaillé par ça. Et donc dans cette vitrine-là, en fait, on a voulu rendre compte à la fois de son travail informatique, où il reprend, par exemple ici dans cette petite vidéo, il reprend une manière de modéliser la chambre d'image dont on vient de parler, et aussi de faire sentir par la diversité des matériaux qu'on a rassemblés là, de faire sentir aussi toute une évolution technique des supports.
Donc cette quatrième vitrine s'appelle Studio Ambulant. L'idée là, c'était vraiment plus d'évoquer Knud Victor au travail, avec voilà, les quelques notes, annotations qui pourraient ressembler à des partitions, pas vraiment classiques, mais voilà, qui sont plus sous la forme de dessins, où on le voit aussi à côté d'un objet qui est très important dans son travail, qui s'appelle le Tetramix, qui est un objet, une sorte de console à quatre voies qui lui permettait de spatialiser le son en dessinant directement sur une plaque recouverte de graphite, et qui est un peu l'objet central justement sur les préoccupations qu'il avait entre le rapport à l'image et le rapport au son. Il a énormément travaillé avec d'autres personnes aussi. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir Knud Victor comme un ermite habitant sur son petit bout de montagne, mais il a énormément collaboré, notamment avec des chorégraphes comme Régine Chopineau, qui lui avait passé une commande pour la pièce chorégraphique Végétale, mais aussi avec Maroussia Vossen, enfin avec plusieurs chorégraphes, et aussi avec des compagnies de théâtre. Donc il a aussi beaucoup tourné dans ce cadre-là.
Alors dans la deuxième partie, en fait, ici l'idée c'est de vraiment rentrer dans le son. Ce qu'on est en train d'écouter là maintenant, c'est une de ses œuvres qui s'appelle Éphémère, qui est au départ une commande passée par Radio France en 77. L'idée étant, pendant l'été, comme ils l'ont fait visiblement régulièrement pendant quelques années, de proposer à des musiciens, des artistes sonores ou quoi, de ponctuer la journée d'écoute radio, les émissions, par des espèces de petits clips qui pouvaient précéder en fait ces émissions. Donc lui, il a composé 24 petits tableaux qu'on pouvait entendre avant un journal parlé ou voilà. Donc ça, il a fait ça l'été 77, et puis il a rassemblé ça, on ne sait pas exactement quand, mais il a rassemblé tout ce travail-là en une œuvre qu'il appelle Éphémère. Et donc dans cette pièce, il y a moyen d'écouter en boucle cette Éphémère.
En dehors de l'exposition, vous allez retrouver les spectateurs, les invités à plusieurs reprises. Il y a même un atelier qui est prévu. Qu'est-ce qui va se passer?
Il va y avoir trois événements. Le 6 février, on va présenter un mix-montage, enfin qu'on appelle un mix-montage, qui est une sorte de fanzine sonore, qui s'appelle « Fais attention au sol sur lequel tu marches », et où il s'agit en fait d'une séance d'écoute d'à peu près une heure, qui permet de faire entendre à la fois les œuvres sonores de Knud Victor et en même temps les propos que lui-même tient sur sa démarche. Et donc c'est une articulation comme ça, une espèce de collage qui permet de découvrir un peu largement son travail. On lit tout à l'heure, on parlait justement d'entretiens radiophoniques. Il a mené plusieurs entretiens radiophoniques, donc on a fait tout un travail de retranscription en fait de ses propos, qui nous permet de lier et d'évoquer un petit peu tous les aspects et toutes les facettes de son travail. Le 8 février, on présente une soirée qu'on a intitulée « L'image, c'est le son ». Là, c'est plus une soirée qui, justement, va tenter de faire sentir un petit peu ces rapports entre intérêt pour l'image et intérêt pour le son. On va faire un focus sur une œuvre vidéo. Je ne vais pas donner son nom, en fait, tout de suite. On va garder la surprise pour mercredi. Oui, les cigales. D'ailleurs, c'est à propos des cigales que Knud Victor dit, c'est le moment où j'ai compris que la lumière se transformait en son. C'est en fait un peu le déclencheur de... Enfin, ça fait partie d'un des déclencheurs importants de son travail sur le son. Et ensuite, une diffusion en quadriphonie de Image 10, qui parle d'érosion.
Le samedi 11 février, on retrouve également une soirée plutôt fun autour d'un montage et de l'œuvre de Knud Victor.
On propose en fait un mix, plus à la façon d'un DJ set, à partir de certaines archives de Knud Victor, qu'on va mettre en lien avec, on va dire, des héritiers ou des sons. Enfin voilà, ça va être une espèce de balade sonore.
D'accord. Donc,
voilà. Et l'atelier, du coup, l'atelier qu'on propose le mercredi à 14h, du coup, ça va être d'imaginer avec les enfants et leurs parents que Knud Victor va donner un concert très bientôt, mais qu'en fait, pour ça, il a besoin d'une affiche et d'un petit teaser bande sonore. Donc l'idée, c'est de composer ensemble, toujours à partir d'une sélection d'images d'archives et de sons des archives, un teaser et une affiche.
Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réserver, s'inscrire avant ?
Concerne les événements de Night Hall. Il y a d'autres événements pendant la semaine du son qui sont en entrée libre.
Patrick Romieux, anthropologue, chercheur au CNRS, propose dans le cadre de cette 14e semaine du son une conférence plutôt politique sur notre environnement sonore.
Donc cette conférence s'intitule « Comme un avion sans bruit » et absolument la cadrer dans la pédagogie, dans la sensibilisation que nous faisons autour du son, parce que c'est vraiment l'objectif de la semaine du son. Je rappelle d'ailleurs à ce propos le fait de la semaine du son au niveau national, mais j'en parlerai aussi donc lors de du vernissage, quand je présenterai les choses, où un comité de pilotage a été constitué au niveau national de chercheurs, de musiciens, de gens qui travaillent dans le son, pour s'occuper notamment des rapports du son et de l'urbanisme. Et dans un deuxième temps, c'est quelque chose que je présenterai parce que c'est tout à fait en lien avec ma conférence, qui est l'importance du sonore dans le choix et l'achat de l'habitation. C'est la dimension très très politique des choses, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps à Digne avec une amie qui cherche un appartement. Et on vous donne un prix, on regarde, et d'un seul coup, on dit aux gens « Attendez, on ouvre la fenêtre, oh là là, mais là, à tel moment, il doit y avoir tel son. » Donc, mon cher ami, ton prix, là, tu le fais un peu baisser. Hein ? Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu très important, et c'est là où on sort, et c'est là la spécificité de l'observatoire sonore, où on sort complètement des questions d'art, etc., pour que les gens prennent en charge leur environnement sonore pour avoir, je dirais, une puissance supplémentaire d'expression dans le fait d'habiter, dans le fait de construire, dans le fait absolument essentiel. Et c'est le but de la semaine du son au niveau national. Donc là, il y a eu quelque chose qui a été fait à Paris, où je devais intervenir, mais je ne m'y suis pas rendu, pour des raisons que je pourrais peut-être expliciter après, mais peu importe, ça a été fait. Il y a donc ce comité de pilotage dans lequel il y a Michel Ries, il y a une quarantaine de personnes, des chercheurs, d'artistes, enfin, des gens, en tout cas, qui travaillent là-dessus. Pour dire que la conférence qui va être faite va porter sur un événement qui a quand même été très important, qui a été celui du crash de l'avion au mois de mars 2015, pas loin de Digne, sur la montagne des Trois Évêchés. C'est important pourquoi ? Parce que, du point de vue du son, justement, c'est un événement qui a eu lieu quasiment sans bruit, ce qui est très inimaginable, sans bruit perceptible, alors que vous imaginez bien le bruit qu'il y a dû y avoir, puisque en 24e de seconde, vous avez la fin de l'avion, la queue de l'avion qui est passée sur le devant. Donc vous imaginez la compression, vous imaginez ce qui peut se passer. Personne n'a rien entendu, et sauf d'autres personnes qu'on va revoir, qui l'ont dit à l'AFP, qui l'ont dit aux journalistes, etc. Donc c'est très très intéressant, d'une part, de cadrer cela dans un contexte national qui est celui des attentats, qui est celui où le son devient absolument quelque chose par rapport à la mort, qui devient véritablement anxiogène par rapport à ça, à tel point que le directeur du CNRS a demandé à une équipe de travailler pendant 10 ans sur la modification des ambiances, etc., par rapport aux événements. Donc, ce sont des gens qui vont être vus et interrogés pendant 10 ans. Avec aussi une équipe de gens qui s'occupent, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des historiens, bref, ça s'appelle le projet du 13 novembre, vous pourrez trouver ça sur Internet, enfin j'en reparlerai. Pour en revenir à ce travail, à cette conférence, je vais donc m'intéresser particulièrement au fait que c'est une expérience qui a surtout été vécue par Internet, par les médias, et qu'il y a très très peu de témoignages directs de cela. Par contre, et c'est là où on voit que c'est très politique et fondamental, par contre, maintenant, vous retournez sur le terrain. Et quand vous retournez sur le terrain, quelles sont les traces que vous pouvez avoir de tout cela ? Alors là, il y a eu une instrumentation un petit peu, il y a eu en tout cas une prise en compte, en tout cas des deux communes qui ont été concernées, qui est Prats et le Vernet, avec des installations qui ont été faites, une stèle, mm-hmm. une œuvre qui a été faite par un architecte d'ici, M. Klein, que moi j'appelle la brosse, il est tout à fait d'accord qu'on l'appelle la brosse, hein, c'est la brosse. Bon. Et donc cette brosse aussi qui est appelée à sonner dans le vent. Mais ce que je vais tâcher de développer, c'est de rendre compte que dans la grande... changement anthropologique, sociétal que nous sommes en train de vivre, hein, je suis anthropologue et je suis chercheur, donc c'est là-dessus que je l'axe, comment est-ce qu'une expérience acoustique a été à la fois contaminée, complètement imaginée aussi par des débris de son qui viennent de la télévision, qui viennent des réseaux Internet, etc., etc. Donc il y a vraiment là quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît dans un contexte mondial. Et pour commencer, je ferai donc, je ferai écouter... un entretien que j'ai eu en 2009 à Bruxelles avec quelqu'un qui a vécu l'arrivée sur New York en 2001 de l'effondrement des tours. Juste après, il arrive en avion sur New York, juste après qu'il y ait eu l'accident, et je le fais parler à ce moment-là. Et donc j'ai pris quelqu'un qui va commencer... Enfin, non, il est d'accord hein, pour que cet enregistrement soit mis en public, et qui n'est pas quelqu'un que nous avons interrogé, parce qu'on interroge beaucoup de gens, et on va aussi lancer un appel... On va aussi lancer un appel pour que les gens peuvent encore témoigner. Les gens témoignent avec nous de leur expérience. Et aussi, on fait faire des parcours commentés. Hein, c'est-à-dire, on interroge les gens qui montent vers le lieu du crash, etc., pour essayer de comprendre comment cet événement peut modifier à l'heure actuelle le rapport aux ambiances, le rapport au son et le rapport au paysage. Hein, c'est quelque chose de très complexe. À l'image de la complexité du monde dans lequel nous vivons. Voilà.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on a tendance à dire qu'on est dans un monde envahi d'images, justement, mais on est largement envahi de sons. Et c'est quelque chose auquel on prête beaucoup
d'attention. Il y a une instrumentation politique, et puisque j'en profite puisque c'est passé, je veux dire, et ça je vais en parler, il ne faut pas dire, on ne peut pas faire de semaine du son à Digne si on ne dit pas que, par exemple, vous avez des tas d'endroits de vente à Digne, au moins 4, qui sont absolument invivable du point de vue du matraquage du son qu'ils font. Et surtout, moi j'ai interrogé et je donne la parole à ces gens-là, j'ai déjà fait une conférence avec la semaine du son à Paris il y a 3 ou 4 ans sur les ambiances dans les endroits de vente où les gens rentrent le soir complètement assommés par le son. Hein, et on peut pas l'enlever. Hein, parce qu'on s'imagine que c'est donc il y a vraiment une dimension complètement de cette espèce de surcharge sonore qui est essentiellement politique. Et nous, notre rôle en tant qu'observatoire sonore, c'est la première enquête du travail d'observatoire sonore qui est faite avec un film en parallèle qui est fait par Stéphane Loy et qui en parlera aussi un petit peu lors de la conférence. Voilà, j'espère avoir été clair. Je ne veux pas en dire trop, mais c'est vraiment cette dimension sociétale, historique.
Si vous êtes curieux de redécouvrir votre environnement sonore, si vous avez envie d'entendre l'invisible, eh bien, il faut aller découvrir la semaine du son à Digne-les-Bains.